Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter l'aïoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Oui, bonjour aux auditeurs, vous êtes bien sur les ondes de Radio Galère et c'est l'émission d'Attaque, La Gueule Ouverte. Ce n'est pas Hervé, exceptionnellement, notre ami Hervé a passé la main sur cette émission au groupe Europe d'Attaque Marseille, car le sujet dont nous allons traiter pendant cette émission, c'est donc l'Union européenne et les positions de notre association Attaque en cette période d'élection. La campagne électorale a commencé. Faut-il plus d'Europe, comme voudrait le président Macron? Faut-il quitter l'Europe? Le feuilleton britannique que nous suivons, que tout le monde suit au jour le jour, semble illustrer la difficulté de cette démarche, quitter l'Union européenne. D'ailleurs, Marine Le Pen, qui en avait fait son cheval de bataille, semble avoir changé d'avis. Faut-il changer l'Europe, réformer l'Europe? L'Europe est-elle réformable? Premièrement, d'ailleurs, est-ce qu'il est possible de réformer l'Europe? Et que reproche-t-on à cette Union européenne? On va d'abord faire une petite explication hein, avec Paul. Donc, excusez-moi, nous ne nous sommes pas présentés. Vous êtes en compagnie
oui,
de Paul
et
Marianne, moi-même. Voilà. Donc, Paul, pour nos auditeurs, comment fonctionne l'Union européenne concrètement? Comment est-ce que on va élire le Parlement européen, mais...
Tout à
Quels
fait.
Sont les rôles
Et justement, on se pose souvent la question de savoir si la construction européenne est démocratique. Alors, c'est vrai que prochainement, il y a les élections européennes. Ça va sûrement dans le bon sens. Mais est-ce qu'il est suffisant d'élire le Parlement européen au suffrage universel pour dire que l'Europe est démocratique? Pour moi, ça semble peut-être suffisant. Sûrement pas. C'est nécessaire, simplement. Donc, il faut voir... au départ, les modalités d'élection au Parlement européen. Contrairement aux parlements nationaux, le Parlement européen, c'est une juxtaposition d'élections nationales, en fait. Chaque pays, chacun des 28 pays européens, élit ses représentants au Parlement européen, ce qui fait que le Parlement européen, finalement, c'est un camailleux de représentants des nationaux qui représentent les nationaux, leur nation. Et quand il y a la consolidation des votes et qu'on commence à constituer des groupes parlementaires, on s'aperçoit que les groupes parlementaires ne sont pas du tout homogènes. Sur les 751 députés, surtout les deux partis principaux qui sont le Parti socialiste européen et le PPE, le Parti populaire européen, c'est finalement un assemblage de réunions de partis nationaux. Et forcément, du point de vue projet, ils sont réduits au plus petit commun dénominateur. Alors, oui ?
Oui, donc il y a en fait deux grands partis hein,
oui.
pour nos auditeurs. Donc il y a encore ces deux grands partis dont Paul vient de parler. Et en fait, c'est eux qui dominent le Parlement européen depuis déjà plusieurs législatures, plusieurs mandatures. Donc, mais il y a de plus en plus, on voit de plus en plus monter une critique de l'Union européenne. Donc ces prochaines élections vont peut-être porter... des députés de couleurs et de tendances différentes. Par exemple, en France, le Parti socialiste s'est effondré. Donc,
Certainement. On ne sait pas du tout ce que sera les nouveaux groupes du Parlement européen. Et même, on se rappelle de la dernière législature du Parlement européen où certains élus, dont le Front national, cherchaient désespérément un groupe auquel se rattacher. Mais c'est vrai que... S'il y a des élections, c'est intéressant. Mais effectivement, ce qu'on remarque à la dernière législature, c'est que le PPE et le PSE, donc le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen, ont en fait co-géré ensemble les institutions européennes. Et c'est peut-être ça qui est un problème. Mais au-delà, justement, de ces représentations, il faut voir comment on est arrivé là. Quelles sont les structures de l'Union européenne et quels sont les traités? Alors, tout le monde se rappelle du traité constitutionnel qui avait été rejeté en 2005 et qui a été repris à 95% par le traité de Lisbonne, qui consolide les traités antérieurs et qui se substitue donc à tous les traités antérieurs. Alors, la question, c'est qu'à l'origine, le traité de Rome, on dirait que les Européens, dans un élan optimiste, ont délégué leur pouvoir, leur souveraineté à une entité qui, sans savoir vraiment qui et quoi, comment faire. Et l'aboutissement, c'est la consolidation dans les traités qui fondent maintenant le fonctionnement de l'Europe. C'est le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, je sais que ce sont des sigles, mais en fait, ce sont vraiment ces textes-là qui gèrent l'Union européenne et qui introduit énormément de textes qui sont immédiatement applicables dans tous les pays. Donc, et certains commentateurs juristes disaient que le TUE et le TFUE, donc l'Union européenne, c'est une entité juridique et politique non identifiée, ce qui est assez étonnant.
Alors concrètement, donc, qu'est-ce qui dirige ? C'est le Conseil de l'Europe. Pour nos auditeurs, pour essayer d'éclairer un petit peu ces termes, donc c'est le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe.
Et non, justement, très souvent, on confond, mais tu as raison, parce que ce n'est pas du tout clair. Le Conseil de l'Europe, c'est le Conseil qui est au-delà de l'Union européenne, qui regroupe beaucoup plus de pays, et justement qui traite des droits fondamentaux. En revanche, en Europe, on a des structures qui sont le Conseil européen.
Ah, le Conseil européen, pardon, alors, je voulais dire
le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est le rassemblement des chefs d'État et de gouvernement.
C'est ça.
C'est ce qu'on voit régulièrement pavaner devant l'immeuble de Bruxelles. En fait, c'est vrai qu'ils ont un pouvoir d'impulsion, vu que sont les chefs de gouvernement, mais très souvent, ils font des déclarations à la sortie de la réunion, très consensuelles, parce qu'en fait, ça se passe à l'intérieur des 28 États, c'est extrêmement feutré, et tout se passe bien. Mais en revanche, les vraies instances, c'est la Commission européenne, bien sûr, qui sont des personnes publiques qui sont nommées par les exécutifs.
Ce sont les fonctionnaires en général.
Oui,
des hauts fonctionnaires.
C'est une fonction publique, pas au sens du statut de la fonction publique, mais ce sont des hautes fonctions publiques, effectivement.
Mais par exemple, en France, on a Moscovici, qui était un ancien ministre.
Tout à fait.
Et nous avons Barnier aussi.
Et Barnier, exactement.
Qui s'occupe, qui est en charge actuellement du Brexit.
Exactement.
Donc voilà, c'est des personnages quand même, des politiques, des hauts fonctionnaires qui finalement constituent
tout à fait
l'organe législatif. Et alors le Parlement, alors à quoi il sert le Parlement ?
Mais disons que non, on revient sur la Commission, parce qu'en fait, c'est elle qui impulse tout. C'est elle le centre de décision. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que la méthode Monnet a fonctionné. C'est-à-dire que quand il y a eu le charbon et l'acier, quand il y a eu l'Euratom, bien sûr, on s'est bien gardé, ou même le traité de Rome en 1956, on s'est bien gardé de faire un texte qui organiserait les pouvoirs. En fait, non, il y avait déjà une commission qui faisait tout, finalement. Et donc là, elle consiste à proposer et à mettre en œuvre les politiques. Et je voulais insister là-dessus, parce qu'il y a quand même 38 000 fonctionnaires qui travaillent auprès de la commission, ce qui est absolument énorme. Voilà. Et c'est elle qui propose donc les directives et les règlements. Ensuite, tu as le Conseil de l'Union européenne. Alors, il ne faut pas confondre le Conseil de l'Union européenne avec le Conseil européen.
C'est ce que j'ai fait.
Mais c'est classique, et moi, je l'ai fait bien souvent aussi, et je continue à le faire. Alors, en fait, le Conseil de l'Union européenne, c'est le Conseil des ministres de chaque État membre qui sont en responsabilité, et ils se réunissent chaque fois qu'il y a un sujet qui se rapporte donc à leur département ministériel. Donc, par exemple, les ministres des Finances quand on traite de l'euro, le ministre de l'Agriculture quand on traite de l'agriculture. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'en France, on a une ministre des Affaires européennes. Je suppose qu'elle s'occupe des affaires générales qui ne rentrent pas dans un secteur ministériel. Est-ce que chacun connaît son nom ?
Non.
C'est Madame Loiseau. Non, je vous le dis.
On en entend parler parce qu'on pense qu'elle sera peut-être tête de liste de La République en Marche.
Tout à fait.
Hein ? Donc,
tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans ce conseil-là, c'est que les membres sont chargés, avec les ambassadeurs permanents, donc qui siègent à Bruxelles, de représenter les États membres et de défendre leurs intérêts. En fait, ils délibèrent dans le plus grand secret. C'est vraiment une des structures les plus secrètes qui existent dans l'Union européenne. Et dans la procédure législative ordinaire, c'est important de savoir, il est co-législateur avec le Parlement européen. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est quand même une entité qui est très secrète, qui sont des personnels qui sont nommés par les gouvernements. Donc c'est une sorte d'exécutif. Et ils sont quand même co-législateurs. Bon. En fait... Oui.
À la question, donc, l'Europe est-elle une démocratie, cette opacité, ces hauts fonctionnaires donc, qui travaillent, cette administration pléthorique, qui travaille en secret, etc., etc., ben, c'est pas un très bon signe pour la démocratie, c'est-à-dire les citoyens, finalement, envoient des parlementaires... Tous les 4 ans, tous les 5 ans. Mais ces parlementaires, finalement, n'ont pas de pouvoir législatif.
Mais c'est ça le problème, parce que le Parlement européen, qui est élu par les citoyens européens, par les États membres, dans un scrutin proportionnel de liste, en fonction de l'importance de la population, donc, à un tour, donc, il n'agit qu'en tant que co-législateur. Alors ça a été une grande victoire apparemment en 2009 quand la Commission européenne a annoncé « Désormais, le Parlement européen devient co-législateur de l'Union ». Parce qu'avant...
C'était une chambre d'enregistrement.
C'était
quoi.
Une chambre d'enregistrement qui n'avait aucun intérêt. Voilà. Et donc il valide quand même... C'est vrai qu'il y a eu quelques progrès depuis le traité de Rome quand même. Il valide quand même la composition de la Commission... qui est proposé par le Conseil européen, donc, et il contrôle le travail de la Commission européenne. Voilà. Mais ça, ce sont des attributions qu'il a eues au dernier moment. Mais le vrai problème, c'est quand même le fait qu'il soit co-législateur. C'est-à-dire que la procédure législative, elle se forme dans le trilogue. C'est entre la Commission, donc, le Parlement et le Conseil des ministres, dont je parlais tout à l'heure, qui est géré dans le plus grand secret.
Alors, est-ce qu'il est arrivé, Paul, toi qui suis un peu plus de ce sujet de près, est-ce qu'il est arrivé que le Parlement européen refuse de voter des lois proposées par la Commission? Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé sur, par exemple, un exemple, est-ce que c'est arrivé sur un traité international, sur...
Jamais. En fait, il y a un espèce de consensus. Et je pense que... dans la bulle européenne, on évite les clashs. Donc, on négocie avec le Conseil européen les grandes orientations. Et il ne faut pas qu'une tête dépasse. Ensuite, quand il y a un problème, on négocie fortement entre le Conseil des ministres, c'est-à-dire le Conseil des ministres et la Commission européenne. Et on discute aussi avec les commissions qui sont à l'intérieur du Parlement. Donc, en fait, du point de vue communication, tout est bien huilé. Et plutôt que d'afficher un désaccord, je pense qu'il y a des négociations pour trouver un espèce de consensus.
Mais Paul, c'était aussi très bien huilé parce qu'au Parlement européen, les deux groupes majoritaires qui étaient avec une majorité écrasante...
Tout à fait.
...étaient tout à fait sur la même longueur d'onde que sur le point de vue économique.
Mais oui.
Étaient sur la même longueur d'onde. Maintenant, si au Parlement, il y a de plus en plus des groupes eurosceptiques ou très critiques par rapport à l'Europe, la question peut devenir intéressante.
Ah, ça, c'est sûr, oui.
Si 80% des députés sont des libéraux, ces sociaux-libéraux ou libéraux-conservateurs, il n'y a pas de raison qu'il y ait des désaccords avec les textes proposés par la Commission européenne.
Tout à fait. D'autant plus que les membres de la Commission européenne sont quasiment tous issus du PPE, donc du Parti populaire européen, qui est en fait un rassemblement pour nous, en France, les Républicains, et pour l'Allemagne, les démocrates chrétiens.
Et il y avait aussi... Bon, parce qu'on ici, vient du Parti socialiste.
Tout à fait, oui.
Donc mais de l'autre groupe, le PSE, c'est ça
Le PSE, c'est ça. Mais le PSE qui a co-géré
Voilà, c'est ça. Voilà. Mais de toute façon, les gens voient bien que quand la gauche arrive au pouvoir, le Parti socialiste arrive au pouvoir en France...
On ne risque pas d'avoir une grande révolution.
Non, la politique est la même, parce que de toute façon, les orientations sont fixées par l'Europe. Donc, à partir de là, ben, tu redistribues plus, tu prends des mesures qui ne sont pas forcément anodines, mais qui ne changent pas l'orientation.
Ça, c'est vrai, mais disons que du point de vue orientation, du point de vue orientation politique, c'est vrai que maintenant, on trouve dans les traités européens, justement, des textes qui ont valeur constitutionnelle, donc, et qui reflètent finalement l'ultralibéralisme, comme le principe de la concurrence libre et non faussée.
On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission.
Mais justement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, il n'y avait pas cette tendance lourde. Justement, on était plutôt keynésien, on était plutôt accordant sur les facilités économiques, etc. Dit que maintenant, le problème, c'est que... comment on peut l'expliquer? Enfin, moi, je l'explique difficilement. Comment est-ce qu'on est passé vers l'année 2000 sous la vague libérale?
Eh bien, on va faire une petite pause musicale. Manu Chao, puisque c'est une émission européenne, donc Manu Chao va nous amener donc en Espagne avec Malavida.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Visión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Vous êtes bien sur Radio Galère, dans l'émission La Gueule Ouverte, émission mensuelle d'Attaque. le sujet aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Paul et de moi-même, Marianne, et le sujet aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Nous avons dit dans la première partie, Paul a cité le chiffre de 35 000 fonctionnaires qui travaillent à l'Union européenne. Bon, c'est pas normal, hein, puisque c'est 500 millions d'habitants, donc c'est pas pour dire il y a trop de fonctionnaires à Bruxelles, c'est pas ça. Mais c'est une, on dirait une infrastructure qui est un peu coupée du réel, du contact avec les peuples. D'ailleurs, quand les peuples votent mal, comme en France en 2005, quand les Français ont voté contre le traité constitutionnel, eh bien, ce traité constitutionnel, il est passé quand même.
On les fait revoter.
On ne les a pas fait revoter.
Oui, enfin...
C'est passé, voilà, je ne sais pas comment ça a marché.
C'est passé
c'est passé.
Parlement. Tout à fait.
Voilà. Ensuite, la Grèce aussi. Rappelons-nous l'histoire de la Grèce. Donc, quand Tsipras et Syriza ont décidé que l'austérité que voulait leur imposer, que leur imposait d'ailleurs la Troïka, la Commission européenne, etc., les Grecs ont voté contre. Et petit à petit, l'Europe a tordu les bras de la Grèce jusqu'à ce que, finalement, la politique s'applique. Là, pour les Anglais, ils ont voté. Mais on entend beaucoup dire que si, ils ont mal voté quoi, que s'ils revotaient maintenant, ils ne quitteraient pas l'Union européenne. Donc en fait, le peuple est prié de pas trop...
C'est une tactique effectivement, on attend quand c'est
je
non...
Je crois qu'il n'y aura plus de référendum.
Quand c'est non par la porte, on essaie de rentrer par la fenêtre.
Mais je crois qu'il n'y aura plus de référendum parce que voilà. Les peuples votent mal.
Rassure-moi, il y aura quand même des votes au Parlement européen.
Oui, mais consulter les peuples, je ne crois pas qu'ils vont s'amuser enfin... la question européenne,
C'est vrai que c'est un vrai problème de la bulle à Bruxelles, parce que autant les peuples sont parfois et souvent ignorés, autant les lobbies ont porte ouverte.
Voilà,
c'est ça le problème. Hein.
Un des principaux problèmes qu'attaque Pointe et d'autres organisations que la nôtre, c'est la toute-puissance et des lobbies et leur présence. Combien y a-t-il de lobbyistes, Paul ?
Il y a 30 000 lobbyistes, enfin, d'après le registre de transparence. Mais bon, il y en a qui disent qu'il y en a 40 000, d'autres un peu moins. Mais en plus des lobbyistes, il faut voir tout le lobbying indirect qu'il peut y avoir avec des groupes de contact, des groupes de travail, des cabinets d'experts, etc. qui
réception, peut-être.
qui influence, disons. Que, quand on est du mouvement social, on nous dit que nous sommes des influenceurs et pas des lobbyistes. Mais en fait, bon, c'est à peu près le même travail. Le problème, c'est que les multinationales et les grandes firmes ont des moyens colossaux, hein, en lobbying, sans commune mesure avec l'influence qu'on peut opérer avec les organisations non gouvernementales tout au long de la procédure budgétaire. Il faut voir ça, parce que les lobbies interviennent auprès de la Commission, interviennent auprès des parlementaires, interviennent auprès des ministres. Voilà. Alors tout ça, quand on voit la procédure législative, quand on voit la manière dont elle se passe, quoi, on se dit, bon, déjà, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et l'influence des lobbies est quand même catastrophique. Je crois que je devais rapporter un mot de Montesquieu, qui disait à peu près avec Tocqueville que là où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, point de démocratie.
Le deuxième point sur la démocratie, je pense qu'on a un petit peu répondu à la question qu'on posait. Le deuxième point, et le plus problématique, c'est l'orientation ultralibérale de cette Commission européenne, qui n'a fait que se renforcer au fil du temps. Et cette dérive, nous, à ATTAC, on s'est beaucoup opposé, par exemple, au traité de libre-échange. Le TAFTA, le CETA, etc., ils sont tout de même passés.
Et c'est, hélas, oui. Malgré quand même une mobilisation assez importante. Alors on voit que c'est ce que j'ai indiqué depuis les années 2000. Comment expliquer que la vague libérale donc ait emporté beaucoup d'institutions, beaucoup de secteurs, beaucoup d'opinions publiques ? Alors c'est vrai. Pourtant, il y a de quoi se lever et dire non à l'Europe ultralibérale telle que le PPE et le PSE voulaient nous amener. Parce que bon, on voit que l'Europe est incapable de régler les crises sociales, économiques, migratoires, climatiques. Au contraire, parfois, on dirait qu'elle les aggrave.
Mais les crises économiques, par exemple, le dumping social,
ouais,
qui fait que le travail doit être toujours moins cher.
Oui.
Donc le travail doit être toujours moins cher. On met en concurrence donc les travailleurs entre eux, parce que quand il y a par exemple des gilets jaunes qui viennent expliquer que avec un salaire mensuel ils ne peuvent pas s'en sortir, eh bien de toute façon il n'y aura pas d'augmentation de salaire, parce qu'on vous dit surtout dans l'industrie que en France le travail est trop cher. Donc le travail s'en va en Roumanie, le travail s'en va dans des endroits où il y a peu de... le coût du travail doit être, de toute façon, c'est le dogme, le moins cher possible.
Tout à fait. Ce sont les dogmes ultralibéraux et c'est ça le problème. Parce qu'effectivement, quand on parle de libre circulation, quand on parle de...
Des biens et des marchandises, des pas biens, des hommes.
Des biens, des marchandises, des travailleurs, en
ah
fait.
Ah oui, des travailleurs.
Et polonais. Mais quand on dit les travailleurs, d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on va se promener, ce n'est pas les touristes, ce n'est pas non plus les étudiants. En fait, c'est mettre la ressource travail au service des grandes entreprises et pour faire jouer la concurrence et pour faire du dumping social.
Moi, je me rappelle quand elle a été votée, la directive Bolkestein.
Tout à fait.
Là, tu te souviens, hein, on est un peu vieux, donc on se souvient.
Et elle est revenue à l'ordre du jour.
Où les gens ricanaient parce qu'ils disaient oui, vous croyez que le plombier polonais va venir travailler en France. En fait, c'est bien ce qui se passe.
Tout à fait.
Donc, on peut payer des travailleurs venus des pays de l'Est au salaire des pays de l'Est.
Absolument.
Ils sont obligés d'être payés maintenant au salaire français, mais tout ce qui est cotisation sociale est payé en Pologne au tarif polonais.
Voilà, exactement.
Donc,
tout ce qui est avantage social.
On a sur notre propre territoire des travailleurs qui viennent concurrencer les travailleurs locaux parce qu'ils sont simplement à plus bas prix.
Voilà, et tout à fait, parce qu'à certaines époques, ce qu'il faut rappeler, c'est que le salaire moyen d'un travailleur des pays de l'Est était inférieur au salaire minimum chinois. Ça a pu arriver. Donc, on voit qu'il y a une marge de progrès. Là, sur les questions financières, on peut citer la Grèce aussi. Parce que la Grèce, c'est clair, on lui a infligé un traitement comme un mauvais élève. Il faut voir Éric Toussaint, qui était un chercheur qui est à TAC, qui démontre que le traitement punitif octroyé à la Grèce, il profitait en réalité aux banques. C'est-à-dire que tous les crédits qui ont été octroyés par la Troïka, c'est-à-dire la BCE, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, elles sont allées pour financer le remboursement de la Grèce aux banques et pas du tout pour remettre l'économie grecque sur pied. De la même manière, Éric Toussaint, je crois, démontrait qu'en fait, la crise grecque a profité à la Banque centrale européenne parce qu'elle a racheté des dettes aux banques. Donc c'est quand même un système un peu scandaleux.
Et de toute façon, en dehors de la Grèce, qui se trouvait dans une position particulièrement difficile, il s'agit de faire baisser le coût du travail, donc d'attaquer les droits sociaux. D'attaquer les droits sociaux des travailleurs, de les niveler par le bas, alors que la promesse de la construction européenne aurait été de permettre aux nouveaux entrants, pays de l'Est, qui sont rentrés dans la dernière vague, de s'aligner sur les standards et la protection sociale des pays de l'Europe de l'Ouest.
Ça, c'est sûr, c'est que l'Europe n'est pas solidaire. Moi, je suis un peu ancien et j'ai vu la naissance de l'Europe presque en 1956 et puis toutes les évolutions. En fait, on nous a dit et redit l'Europe sociale ne sera pas. Ben voilà. Le problème, c'est que l'Europe n'est pas sociale, alors vous en tirez vous-même les conclusions.
On va mettre une petite pause musicale, un morceau qui correspond bien. Et ensuite, nous aurons au téléphone Catherine Samargue, qui est du Conseil scientifique d'Attac, voilà, qui a bien voulu intervenir dans notre émission.
J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fans de moi. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en jaguar et en matin. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus, accrochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute, avant de faire la culbute dans les poches de Lavilliers, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre deux doigts d'arnica, trois bons mots, une caresse, au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis celui qui décomplexe, je suis le dernier réflexe qu'on n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer dans un coin sur la planète. Il y en a qui feraient une drôle de tête. Il y en a même qui en sont morts. Aliéné dans le décor. Je suis passé sous les tables. J'ai glissé sur des tapis. Dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais. Dans quelle main je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter, mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères, depuis que les poètes maudits comptent leurs économies, une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix.
Oui, l'émission de d'attaque, La Gueule Ouverte. Nous avons au téléphone donc une Catherine qui est donc membre du conseil scientifique d'attaque. Allô Catherine ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bien, tu as écouté la première partie de l'émission, ça,
ben,
ça
a... J'ai voulu, j'ai branché mon ordinateur, mais ça n'a pas bien marché, alors bon, je suis désolée.
Bon, nous avons été très généraux hein, sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc Paul, maintenant, a des questions un peu plus précises à te poser. Je lui laisse la parole.
Oui, ben oui. On sait que l'Europe ne fait pas l'unanimité, loin de là, hein, auprès des mouvements sociaux en Europe. Alors, moi, j'ai une énigme. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le mouvement social ait eu des difficultés à contrer la vague libérale qu'on a eue depuis à peu près les années 2000, alors qu'avant, c'est vrai que l'Union européenne était plutôt keynésienne. Soudain, on a une vague libérale sans précédent. Comment expliquer ça ?
Alors, il y a des transformations qui ne touchent pas simplement l'Union européenne et qui paralysent très largement, qui modifient très largement les rapports de force. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que les politiques justement néolibérales, par différence aux politiques d'inspiration keynésienne, elles démantèlent les droits sociaux, les protections collectives. Elle valorise toutes les dans le code du travail, c'est ce que Macron applique, hein, l'individualisation, la précarité. C'est toujours beaucoup plus difficile de lutter quand on est précaire. Les politiques néolibérales, c'est aussi la baisse des salaires, pas simplement des précaires, mais y compris des travailleurs pauvres. Et les gilets jaunes expriment bien ça, qu'ils aient du travail ou pas, quand on n'a pas forcément avec les salaires tels qu'ils ont baissé, les allocations telles qu'elles ont été aussi contraintes, la baisse des services publics, etc., de quoi tenir le coup et les fins de mois. Bon, et donc c'est plus difficile aussi de lutter. Et les syndicats et les formes associatives sont donc confrontés à des difficultés de résistance qui sont d'abord nationales et qui sont aggravées par les enjeux européens. Mais si on prend, peut-être qu'il faut être prendre un exemple concret aussi sur, pour pas démoraliser quand même, pour montrer qu'on peut
oui,
faire.
Oui, bien sûr.
Si tu prends les enjeux actuels sur les traités, par exemple, le TAFTA. Le TAFTA, c'était une négociation entre l'Union européenne et les États-Unis pour imposer derrière ces traités donc de libre-échange que les firmes multinationales aient les pleins pouvoirs pour en réalité imposer des normes qui permettent d'augmenter leurs profits, mais au détriment d'enjeux écologiques et de droits sociaux. Bon, eh bien, ce TAFTA qui était en négociation, il a été bloqué par des mobilisations européennes il y a 3 ans. Et il faut rappeler ça, c'est-à-dire que loin d'être paralysé, le mouvement social, même si la plupart des gens dans la population ne s'en souviennent pas ou ne s'en sont peut-être pas aperçus, mais ceux qui étaient impliqués le savent et peuvent en trouver les traces sur, y compris les sites Stop TAFTA. Il y a eu des centaines et des centaines de milliers de jeunes notamment, se mobilisant en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne. C'était considérable et ça a abouti à l'arrêt de la négociation de ce traité. Et puis voilà que Trump arrive. Et Trump arrive qui rejette, par ailleurs, enfin qui proclame sa volonté de rejeter les résultats des négociations qui se sont concrétisées à Paris sur les accords sur le climat. Et qui, en même temps, propose donc, et c'est en cours, donc de renégocier avec l'Union européenne un nouveau traité de libre-échange. Et donc, là, on est maintenant confronté à une deuxième mobilisation nécessaire, plus difficile, mais pas du tout impossible, puisque la première, elle avait été victorieuse.
C'est vrai,
alors,
c'est vrai.
Concrètement.
Oui, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, je me rappelle qu'on a eu des collectifs Stop TAFTA dans toute l'Europe, finalement.
Exactement.
Et c'est vrai qu'un des points majeurs que l'on est arrivé à mettre en évidence, c'est les conditions d'arbitrage entre
oui.
les investisseurs qui étaient vraiment odieuses, avec les exemples qu'on connaissait d'arbitrage, comme par exemple Vattenfall et l'Allemagne, où
oui.
Vattenfall a pu condamner l'Allemagne à plusieurs milliards d'euros pour avoir cessé la production d'électricité nucléaire. Ça, c'est vrai. Donc,
oui.
Un espoir existe, alors.
Non, donc il y a une possibilité de mobilisation populaire avec alors quels sont au niveau des mécanismes de décision pour ça, puis après on passera à un autre aspect, mais sur des traités internationaux, alors vis-à-vis du Parlement européen, le Parlement européen a un pouvoir consultatif. Mais une prise de position du Parlement européen, donc des députés, a tout de même des répercussions dans le rapport de force sur ce qui va être décidé par qui. Alors là, c'est le Conseil qui a un pouvoir de décision, c'est-à-dire ça implique les gouvernements. Et donc Macron, bon. Alors, concrètement, je viens de recevoir ici l'information que donc le Parlement devait aujourd'hui, européen, devait aujourd'hui donc décider par rapport à la proposition de la Commission européenne de reprendre la négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. Le Parlement européen devait donner un avis. Hein. Et alors, il y a eu une campagne qui a été lancée, notamment dans les attaques, pour faire pression sur les députés pour que dans le vote d'aujourd'hui, eh bien, ils refusent. Où ils mettent des conditions extrêmement précises, notamment que le traité de Paris sur le climat soit respecté ou même qu'il n'y ait pas de renégociation et que ce soit totalement transparent. Alors que la Commission européenne disait « faites-moi confiance », etc. Bon, alors, le résultat, les militants qui se sont mobilisés sont souvent trouvés confrontés, ça pour répondre à ta question sur la difficulté par rapport aux députés, d'abord de trouver des députés, ensuite de savoir qu'ils soient au courant du vote qu'il y avait aujourd'hui au Parlement européen, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon.
Oui, et puis, excuse-moi, mais c'est un peu difficile de trouver son député, parce que vu la manière dont les élections sont organisées, alors je sais que moi, personnellement, dans le Sud-Est, j'en ai contacté 4, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas évident.
Voilà, mais alors moi personnellement, je te dis entre nous, je pense que, bon, c'était pas forcément négatif d'essayer de faire cette action vers les députés, mais ce qui a fait échouer le TAFTA, c'est des mobilisations de rue, de masse, hein. Et donc bon, mais ceci étant, malgré ça, les pressions qui se sont exercées dans toute l'Europe sur les députés, bien ou mal et avec des difficultés, ont fait que dans la réunion du Parlement européen qui vient d'avoir lieu, eh ben, il y a eu une chose assez bizarre, mais en tout cas un vote majoritaire d'amendements qui était extrêmement contraignant et qui était donc une bonne nouvelle, mais finalement une résolution qui, en même temps, telle qu'amendée, n'est pas passée. Bon, bref, donc le Parlement n'a pas pris de position. Mais ceci dit, donc le vote massif des amendements restrictifs, donc notamment demandant de respecter les accords sur le climat de Paris, donc montre que quelque part il y a une opinion publique qui s'est mobilisée. Alors maintenant, le prochaine étape, c'est vis-à-vis de nos gouvernants, puisque c'est faut faire attention que nos gouvernants, comme Macron, se cache éventuellement derrière les institutions européennes pour dire « moi, je ne peux pas faire ceci ou faire cela », alors que c'est eux qui prennent les décisions.
Tout à fait.
C'est eux qui vont prendre les décisions.
Tout à fait. Au sein du Conseil des ministres.
Voilà. Et donc, il y a deux conseils. Hein, un conseil soit des ministres, soit des gouvernements. Bon. Et donc, c'est là qu'il y a des pouvoirs de décision. Alors, donc là, l'étape concrète, en fait, c'est le 15 et 16 de ce mois-ci, c'est-à-dire le week-end qui vient. Et là, comme tu sais, ou comme il faut faire savoir et massivement, il y a une mobilisation mondiale et européenne sur les enjeux du climat.
Oui.
D'une part, le 15, avec à l'appel des jeunes, notamment de cette jeune suédoise, un appel à des grèves sur le climat. Et donc j'ai reçu donc l'information au niveau d'attaque. Il y a plusieurs dizaines de villes et dans lesquelles il y a des centaines d'initiatives de grèves concrètes ayant un rapport avec les enjeux du climat le 15 mars et le 16 mars notamment à Paris, mais je pense que c'est
à Marseille aussi, oui, Catherine. Nous appelons bien sûr à cette marche départ du Vieux-Port.
Important.
Voilà, il y a donc une manifestation et c'est là que ça va se jouer. Donc bon, alors maintenant en dehors de ces traités internationaux, je trouve que bon, par rapport à la question qui était posée, je trouve que ce qui est très très important, c'est la question pas simplement bien sûr des accords que l'Union européenne négocie avec l'extérieur, mais aussi de la politique que l'Union européenne mène au sein même des États membres, c'est-à-dire les politiques destructrices de l'environnement. Et là, à nouveau, nos gouvernants, Macron, etc., qui sont destructrices à la fois de l'environnement et des droits sociaux. Alors, question concrète qui était posée, pourquoi c'est si difficile ? Ben, c'est difficile parce que il faut, ça n'est pas impossible, mais il faut créer, premièrement, des mouvements sociaux européens et syndicaux européens qui soient capables d'agir, mais on a vu que c'est pas impossible, hein. Et avoir une visibilité. Un des éléments le très important, c'est le problème de la visibilité et du rapport de force. Donc, sur le plan syndical, la Confédération européenne des syndicats, malheureusement, pour l'instant, bien qu'il y ait eu quelques petites déclarations et mobilisations, il y a eu une démarche qui a été très intégrée dans la construction de l'Union européenne et très peu de pouvoir réel de peser. Et donc c'est très très important que se constitue ou que se reconstitue à l'échelle européenne quelque chose qui mettrait ensemble les différents mouvements sociaux et politiques, d'ailleurs, s'ils veulent les soutenir, concernés par la défense à l'intérieur de l'Union européenne et pas simplement dans la négociation des traités internationaux, des grands enjeux pour lesquels on se bat. C'est pas très compliqué de les résumer et de pouvoir faire des luttes, c'est-à-dire ce qui est à l'ordre du jour depuis les années 80, et qui se concrétise notamment après 2008 dans l'Union européenne, c'est le démantèlement des droits sociaux collectifs, le démantèlement des services publics et des politiques économiques qui ne respectent pas ou pas assez les engagements de protection de l'environnement et de reconversion. Par conséquent, il y a concrètement, si on prend les problèmes de l'environnement, les transports, des enjeux de transport public européen, les grands services donc qui sont liés à ça, c'est évidemment des batailles qui sont nécessaires, et là il faut se retourner contre nos gouvernants et en même donc avoir des luttes nationales et en même temps essayer de construire des réseaux européens.
C'est sûr. Bon, donc de toute façon, il est important de voter aussi au Parlement européen. Ça fait aussi partie justement d'un scénario pour de mobilisation, c'est certain. Mais justement, dans un article récent où tu parlais de désobéissance et de confrontation, tu écartais, enfin vous écartiez, puisque c'est un article collectif, donc d'une part la sortie directe de l'euro, d'autre part la modification par l'intérieur. Est-ce que ce sont vraiment deux positions à écarter ?
Alors c'est effectivement intéressant ta question, parce qu'il faut être plus précis. Alors d'abord une première remarque, là tu fais allusion à un texte d'une contribution effectivement à trois, mais le livre qui vient de sortir, d'ailleurs auquel j'ai contribué, d'Attaque, a un peu cette même démarche.
Excuse-moi Catherine, quel est le titre du livre ?
Alors le titre du livre, il s'appelle « Cette Europe malade du néolibéralisme ». Et le sous-titre, c'est l'urgence de désobéir.
D'accord.
C'est assumé par deux associations, Attaque et la Fondation Copernic. Et c'est sorti au lien qui libère.
Aujourd'hui.
Et je crois que nous recevons un des rédacteurs, puisque c'est collectif.
Oui, Jacques Rigaudia.
D'accord.
Voilà, nous le recevons le 16 à la librairie Mes Petits. Je dis ça pour nos auditeurs qui souhaiterait aller plus loin.
Je pense
que
la démarche du livre est exactement celle que tu viens de dire. Alors, on précise sur les deux points que tu as posés. Premièrement, le livre montre, comme d'ailleurs notre argumentaire particulier, bien sûr qu'il y a des batailles possibles à mener contre l'Union européenne, c'est-à-dire y compris, comme on vient de l'évoquer d'ailleurs, dans le Parlement européen. Hein, le livre souligne qu'il y a des petites marges. Ce contre quoi on attire l'attention, c'est contre une naïveté qui ne mesure pas les limites pas simplement les difficultés, mais les enjeux en quelque sorte de la bataille à l'intérieur de l'Union européenne. L'Union européenne, elle est définie par des institutions et des traités. Et dans ces traités qui sont, bon alors on les avait, moi j'ai participé, je suis suffisamment vieille pour ça, à la campagne qu'on avait menée au niveau d'Attaque en 2005 contre le futur traité européen, on avait décortiqué justement les traités. Bon, il faut le faire, ça fait partie des tâches d'Attaque, de formation populaire. Mais pour aller vite, dans ces traités, on peut trouver des belles phrases sur des idéaux à défendre, y compris des protocoles sociaux qu'on peut, ou des éléments de charte sociale, etc., mais qui n'ont pas de pouvoir contraignant. Qu'est-ce qu'il y a comme droit contraignant dans l'Union européenne telle qu'elle est? Donc c'est pas la communauté économique européenne des années antérieures, hein, c'est depuis le traité de Maastricht. Le seul droit contraignant qui est supposé représenter l'intérêt général, c'est la concurrence. Et la Commission européenne, qui est une institution non élue, précisément, est supposée, et c'est pour ça qu'elle a un pouvoir d'initiative législatif, Elle est supposée être capable d'incarner au travers de la défense de la concurrence un intérêt général. Vous comprenez bien que l'idée que la concurrence de marché, c'est la défense de l'intérêt général, c'est une idéologie dogmatique fausse.
Oui, c'est quand même très curieux quand même que l'on ait pu accepter qu'on inscrive dans ces traités, parce que bon, finalement, ils ont été négociés, qu'on inscrive dans ces traités des dispositions quasi constitutionnelles et qui portent sur une idéologie ultralibérale qui n'est pas partagée par tous.
Et qui détruit les emplois.
C'est tout à fait important et c'est un deuxième point que tu me permets de préciser d'ailleurs en disant ça, c'est que depuis, cette première idée générale, à savoir que c'est le droit de la concurrence qui est supposé incarner l'intérêt général et que défend la Commission européenne et donc les traités, et donc qu'elle va défendre dans les traités internationaux, eh bien, ça s'est aggravé, comme tu le dis, au plan institutionnel et constitutionnel depuis la crise de 2007-2008, par le fait que les nouveaux pactes, ils ont tellement peur au niveau de l'Union européenne d'une contestation politique des principes libéraux et des principes de concurrence qui mettent en concurrence chacun contre tout le monde. Et quand on met en concurrence chacun contre tout le monde, c'est la loi du plus fort. C'est le renard qui mange les poules quand on supprime le poulailler.
Absolument.
Et c'est la destruction des services publics, c'est la remise en cause de tout ce qui est précisément défense commune d'accès à l'école, au transport, etc. Bon, mais pour en revenir aux institutions, donc ils ont voulu que soient mis des règles d'or sur la défense effectivement des principes libéraux, parmi lesquels la concurrence est supposée être une règle, alors que c'est tout à fait un principe idéologique contestable et dont on peut démontrer le caractère nocif.
Absolument, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas.
Si, ça fonctionne, mais négativement. Oui. Ça fonctionne de façon destructive. Et d'autre part, les règles sur les déficits publics et la dette publique, qui sont des règles absolument non scientifiques, y compris d'ailleurs l'équilibre budgétaire en soi, qui est supposé être une règle, comme dans un foyer où on doit être en équilibre et pas s'endetter. L'État, il est supposé ne jamais s'endetter, ce qui est une entourloupe totale. L'État a la possibilité d'avoir une politique économique avec un endettement, mais il faut mettre cet endettement sous contrôle. C'est toute la logique, d'ailleurs, des politiques menées à l'intérieur des associations internationales européennes par le comité, le CADTM, sur l'annulation de la dette et notamment sur la Grèce. C'est les politiques qui demandent ce qu'ils appellent des audits publics, c'est-à-dire la mise, la volonté qu'il y ait
une
réunion publique. C'est ça, de rendre public le contenu des dettes, hein, pour qu'on puisse distinguer dans les ressources et dans les utilisations des dettes, c'est-à-dire les budgets, autrement dit, que ce soit des communautés, des municipalités, que ce soit d'un État national ou que ce soit de l'Union européenne, de mettre en évidence ce qu'ont été la fiscalité, comment elle a évolué. Or, on peut démontrer, Piketty l'a fait et bien d'autres, que la fiscalité depuis les années 80 et dans l'Union européenne, dans les dernières années, elle s'est faite au détriment des plus pauvres, en fait, avec l'augmentation de la TVA. Et elle s'est faite avec non seulement les niches, mais aussi la baisse absolue pour toutes les entreprises exportatrices et les plus riches. Bon, donc, et d'autre part, sur le plan de l'usage de la fiscalité, une chose est une fiscalité qu'on utilise pour faire des dépenses d'armement ou pour une politique d'État que l'on désapprouve et qui est destructrice, mais autre chose, bien sûr, serait une politique, y compris pour éviter trop de fiscalité, une politique qui fait appel à des financements par une banque centrale, par exemple, qui retrouverait son statut de banque publique et ou qui fasse appel à un endettement, mais pour des finalités précises. Par exemple, la conversion des transports, la conversion des bâtiments pour des buts écologiques. Et quand les Gilets jaunes se révoltent contre le fait taxes, il y a le double problème. D'une part, que certaines des taxes sont injustes parce qu'elles touchent plus précisément les pauvres qui n'ont pas de voiture ou de voiture moderne et qui sont obligés d'utiliser quand même une voiture parce qu'il n'y a pas de transport public. Et puis, en même temps, en plus, les taxes supposées être écologiques ne sont pas contrôlées. C'est-à-dire que l'usage qu'en fait l'État n'est pas contrôlé.
C'est exact. Donc, finalement, quand tu parles des Gilets jaunes, tu penses qu'ils participent au scénario de rébellion, de communication, sous la forme de désobéissance et de confrontation.
Bien sûr, tous les mouvements, bien sûr. C'est une logique qui est spontanée d'une certaine façon, parce qu'elle est légitime, elle est profondément morale et politique, parce que elle devient collective et elle transforme une désespérance individuelle en une protestation qui, au démarrage, ne sait pas trop comment s'exprimer, mais qui ensuite trouve petit à petit son cheminement. Donc,
très bien. Écoute, Catherine, merci pour ton intervention. Là, je suis sûr que tu avais plein d'autres choses à nous dire.
On aurait
très intéressantes,
pu rester longtemps.
Mais je pense qu'on en rediscutera au sein d'Attaque. Et donc, l'émission va prendre fin. Et donc, on te remercie de ta contribution.
Alors, nous rappelons...
Très bien.
Merci Catherine. Et pour nos éditeurs marseillais, nous rappelons donc à Maupetit le 16 la présentation du livre sur l'Europe dont Catherine a parlé et le 23, le mardi 23 à 18h30 à notre local, 23 avril pardon, excusez-moi, 23 avril, un film Looking for Europe qui illustre également le fonctionnement des institutions. Voilà, nous rendons l'antenne.
Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter l'aïoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux conos.